désert de l'Arizona aux États-Unis. Dans une base d'entraînement de la NASA, trois hommes se préparent pour une future mission sur la Lune. Des pieds nickelés sur Terre, qui n'iront sans doute jamais dans l'espace, mais en attendant, ils ont une mission à remplir.
Hé, regardez, on a reçu un mémo de mission.
Base lunaire 8, votre attention s'il vous plaît. Afin d'explorer les possibilités de vie organique sur la Lune, votre mission consiste à planter le pépin de pomme génétiquement modifié 6 juin dans votre biosphère lunaire. À en étudier la pousse et à nous communiquer les résultats.
Mais est-ce qu'on doit... Pourquoi on peut pas poser de questions? Y a quoi d'autre là-dedans? On a autre chose?
Non, y a rien de plus que le pépin en fait.
Bienvenue dans Sériland, zoom sur la nouvelle série de Canal+, Moonbase 8, et sur ces histoires qui nous embarquent dans l'espace. Sériland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva, et je vais vous faire une révélation. Adolescente, j'avais plusieurs passions, dont une qui me rendait parfois étrange, aux yeux de certains et certaines de mes camarades, je prenais des cours d'astronomie. Les planètes, les étoiles, les galaxies, les constellations, tout me passionnait. J'ai eu la chance d'aller découvrir un cratère météoritique dans le désert algérien. J'ai travaillé au Space Camp auprès de Patrick Baudry. Résultat, dès qu'une série évoque l'espace, je la regarde avec avidité. Ce fut le cas, il y a quelques jours, avec Moonbase 8, mais aussi avec Space Force, l'étoffe des héros ou encore Away. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Charles Martin, journaliste à Première et Première.fr, et Patrick, notre voix, nous avons donc enfilé nos costumes de spationautes pour partir à la découverte de ces séries spatiales. Mais il nous fallait aussi un expert féru de séries, un docteur en astrophysique, capable de vous expliquer avec pédagogie les concepts les plus complexes. Il s'appelle Julien Dassaterrier et il est notre invité. Au programme de cet épisode également, la série événement de Netflix, Lupin, avec Omar Sy dans le rôle principal, c'est la découverte de Sériland.
Sériland, épisode 36.
Bonjour Charles Martin.
Bonjour Eva.
Et bonjour Julien Dassaterrier.
Bonjour Eva.
Nous avons un point commun tous les trois, nous aimons les séries. Et nous envoyer en l'air, il fallait bien que je la fasse une fois, cette blague nulle. Donc là, c'est fait. Voilà, je la ferai plus, je vous le promets. Voilà. En clair, l'espace ne nous fait pas peur, mais a tendance plutôt à nous fasciner, en tout cas sur nos écrans respectifs. Mm-hmm. Il y a quelques jours, Canal Plus proposait une nouvelle comédie ayant pour thème la conquête de la Lune, Moonbase 8. Charles Martin, est-ce que vous l'avez vu cette série? Qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu. Donc Moonbase 8, c'est une série de Showtime à la base de la chaîne américaine, donc arrive en France sur Canal depuis quelques jours. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, notamment par le casting. John C. Reilly, qui est la star du truc qu'on adore, c'est lui qui sauve un peu les meubles, une belle alchimie avec le reste du cast. Pour le reste, c'est un humour absurde total auquel il faut vraiment adhérer, oui. Avec un ton pince sans rire ultime, voilà, qui est pas pour tout le monde.
Pourquoi on le connaît, cet acteur? Vous pouvez nous rappeler en quelques mots?
Ouais, bah c'est John C. Reilly, c'est l'acolyte de Frangin malgré eux, le film génial, voilà, des années 2000. C'est un acteur de comédie indé-américaine culte.
Julien Dassaterrier, est-ce que vous l'avez vu cette série?
Alors j'ai vu quelques épisodes.
Est-ce que vous la conseillez? Et si oui, sur quel critère?
Je sais pas si je la conseillerais, malheureusement. Je vais peut-être directement commencer. On va dire avec les gens qui râlent, mais non, en fait, je j'ai pas, pour le coup, voilà, comme disait Charles, c'est une question d'adhérer ou pas à cet humour. Moi, j'ai pas été vraiment sensible et du coup, je me suis plutôt ennuyé, je dois avouer, même si les acteurs sont, on connaît les acteurs et il y en a quand même un gros casting de gens qui savent jouer. Mais voilà, l'humour, moi, l'écriture m'a pas trop touché. Après, sur, on va dire, une vision un peu comique de quelque chose qui existe vraiment à ces bases de tests où on expérimente qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est plus pour Mars en général, hein, mais quelle serait la vie d'astronaute dans une base, comment gérer le quotidien, et c'est une manière un peu de se mettre à l'épreuve et de voir aussi l'isolation et tout ça. Ce sont des expériences qui existent et... Bon, je les connais pas très bien personnellement, mais voilà, on est dans quelque chose qui est réel. Alors bon, la série a ce twist un peu absurde dessus, mais c'est inspiré de vraies démarches scientifiques.
Ça vous ferait rêver, vous, d'aller faire une telle expérience sur une base un peu isolée, le temps d'une préparation pour une mission?
Alors,
vous qui êtes astrophysicien, vous pourriez y avoir droit.
Alors, malheureusement, je suis pas sûr que je pourrais, parce que c'est très sélectif, en fait, parce qu'ils cherchent des profils spécifiques pour les missions, des gens qui, et puis ils veulent tester des choses particulières, donc ils vont prendre à chaque fois des profils qui sont adaptés à ce qu'ils veulent tester. D'un côté, ça pourrait, mais je sais pas si je serais prêt à rester isolé 100 jours, 200 jours, 300 jours comme ça, dans un environnement où je vais pas faire grand chose d'autre que de les missions qui me sont données au quotidien, on va dire.
Mais quand vous êtes dans votre bibliothèque, c'est un peu ça, non? En tant que chercheur.
Alors. Oui, mais on n'est pas si isolé ça du monde en fait en tant que chercheur.
C'est un peu de la provocation.
Mais non, mais c'est un bon point comme ça. On peut un peu casser les idées reçues. C'est vrai que c'est un monde où on travaille beaucoup. Le monde scientifique, on travaille en communauté, on est tout le temps en contact avec le reste de la communauté. Alors il y a quelques chercheurs qui sont vraiment très théoriciens et qui ont juste besoin d'un tableau noir. Mais en astrophysique, très souvent, on doit travailler dans des collaborations avec des centaines de personnes. Et on peut rarement travailler tout seul. On a besoin, enfin, dès qu'il nous faut une image, je sais pas, d'un satellite, ça veut dire que il y a quand même des dizaines de pays impliqués dans la création de ce satellite. Il y a des demandes, il y a des trucs. C'est vraiment du travail de communauté.
Alors, nous sommes trois dans ce studio. Ils sont trois aussi sur cette base en plein cœur de l'Arizona. Pour être totalement honnête, de mon côté aussi, je sais pas du tout la série du siècle. C'est un petit peu poussif parce que je pense qu'à vouloir jouer le côté absurde, voire grotesque de ces personnages donc perdus dans ce désert, qui rêvent de partir sur la Lune, en fait, on perd en histoire. C'est-à-dire que le scénario va s'effacer au profit de scénettes qui sont mises bout à bout. Et la qualité de l'écriture, évidemment, elle a du mal à suivre du début jusqu'à la fin de l'épisode. Néanmoins, je dois dire que c'est un bon divertissement. Je vais pas vous mentir, j'ai souri. C'est à voir absolument en version originale, parce que les voix françaises, notamment en termes d'âge, correspondent pas vraiment au personnage. Donc c'est de l'humour et quelques réflexions pas inintéressantes comme celle qui suit.
Pourquoi toi, tu voulais aller sur la Lune?
Je sais pas. Mon pasteur trouvait que ce serait une bonne idée de partir répandre le message du Christ dans tout l'univers.
D'accord. La foi. Et toi, pourquoi tu veux aller sur la Lune?
Je voulais poursuivre l'œuvre de mon père, le docteur Enai Senior, le grand astronaute. C'est ce qu'on attend d'un fils. Après tout, on est les Enai.
Exactement, c'est ce qu'on attend d'un fils. Un fils, il fait quoi? Un chrétien, il fait quoi? Il persévère, d'accord? Il trouve une solution. On a tous fait des erreurs. On a tous fini par divorcer. On a tous eu des entreprises de tourisme en hélico qui ont mis la clé sous la porte d'un coup pour cause de redressement fiscal. Non ?
Julien Dassaterrier, c'est une question légitime, voire existentielle. Pourquoi vouloir aller sur la Lune ou sur Mars ?
En tant qu'individu ou en tant que société ?
Ah, les deux ? J'ai envie de vous dire les deux.
En tant qu'individu, bah là, je pense que c'est vraiment des choses personnelles. C'est l'accomplissement, le vouloir faire avancer, l'exploration. Alors, bon, sur un plan scientifique, on peut toujours trouver un intérêt. C'est pas forcément les missions les plus... où on apprendrait le plus de choses là tout de suite. On a ces questions de est-ce que la Lune peut être un point de départ pour partir vers Mars, ce genre de questionnement qui se pose. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein, y a des débats de communauté terribles là-dessus. Et après, ben pourquoi aller sur la Lune? Nous en tant qu'êtres humains. Ouais. Là, je pense que là c'est mon côté fan de SF qui joue, mais je pense que ça c'est juste pour pouvoir le faire, pour se dire qu'on a accompli cette espèce d'exploit. Et ce que je vois incroyable en fait, c'est de se dire si on prend la conquête spatiale, on y reviendra sur l'étoffe des héros,
oui.
Mais on est quand même passé d'avoir vaguement un ancien missile de la Seconde Guerre mondiale à on est sur la Lune en une dizaine d'années, quoi. C'était quand même l'exploit technologique et scientifique derrière qui était quand même incroyable. Et ça aussi, mine de rien, ça injecte des technologies dans le monde civil et aussi dans notre société.
Julien Dassaterrier, on a appris aussi que beaucoup de spationautes de retour de l'espace ont connu des épisodes dépressifs. Je pense notamment à la mission Apollo. Est-ce que, au fond, de partir dans l'espace, c'est le rêve ultime? Et une fois que vous avez ce rêve ultime, eh bien, de revenir sur Terre, c'est compliqué aussi.
N'étant pas astronaute, je peux pas le dire, mais après, je pense que c'est une question d'expérience différente, parce que si on voit ce que va dire, par exemple, Thomas Pesquet,
il le vit plutôt bien.
Après, ah ouais. Il est très impatient d'y retourner et il va repartir en mission et ça se voit dans les communiqués et tout. C'est un voyage fascinant. Après, je pense aussi que faut voir qu'être astronaute, c'est épuisant.
On est bien d'accord.
C'est un métier très, très, très compliqué où on passe son temps soit à faire de la com, soit à prendre des manuels. On n'a pas beaucoup de temps pour se reposer et on doit s'entraîner tout le temps. Et je pense que tout ce qui est amis, famille et tout, il y a aussi ça qui, à mon avis, doit être difficile. Les astronautes modernes sont souvent sélectionnés pour être des gens très stables.
Oui, c'est vrai.
Ce qui n'est pas forcément le cas de l'époque.
Oui, on est d'accord. Où ça fumait beaucoup, ils buvaient beaucoup d'alcool, ce qui est aujourd'hui impensable, parce que c'est plutôt des sportifs de haut niveau, nos spationautes. Charles, vous aimeriez partir sur la Lune ou pas?
Bien sûr.
Ou ça ne vous fait pas du tout rêver? C'est vrai?
Évidemment que ça me fait rêver. Ça fait rêver tout le monde. Après, très honnêtement, je pense que ça n'arrivera pas.
je crains que non, effectivement. On ne se connaît pas trop bien, mais je pense que ça va être difficile quand même.
Je pense que c'est pas possible.
Vous avez utilisé le mot burlesque, absurde tout à l'heure. Charles, je partage tout à fait votre opinion. Exemple avec ce dernier extrait. Attention, nos trois pieds nickelés reçoivent une nouvelle mission.
Base Lunaire 8, votre attention s'il vous plaît. Le Congrès a approuvé notre budget pour la prochaine année fiscale. Les fonds alloués au programme Moonbase ont été réduits de 15%. Afin de contrebalancer les pertes, nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau partenariat avec Mars.
On va aller sur Mars ! Génial !
Il faut voir. Se rapprocher du groupe industriel Mars, qui vient de signer un contrat de 3 ans pour devenir un partenaire officiel
en fait,
de la NASA.
Ils ont des bons produits, comme les M&M's, évidemment le Mars, qui n'est pas très populaire aux États-Unis, c'est plus un truc anglais.
La
Snickers, ils ont...
On peut écouter la suite du communiqué, je connais très bien leurs produits.
Vous allez participer au test produit d'une toute nouvelle barre, le Snickers laqué miel sirop d'érable. Merci.
Et voilà, un Mars, ça peut être une barre de céréales chocolatées, ou ça peut être aussi la planète Mars. Si vous deviez utiliser un argument, Charles Martin, pour dire qu'on peut quand même regarder Moonbase 8, ce serait lequel, au-delà du casting dont vous nous parliez tout à l'heure?
C'est une bonne question. Au-delà du casting, j'en ai pas vraiment, honnêtement. Ça, c'est une série qui mérite vraiment pour le trio Fred Armisen et puis John C. Reilly et Tim Heidecker, qui sont vraiment vraiment cool, tous les trois ensemble, ils ont une belle alchimie, voilà, ça marche bien. Pour le reste, comme vous disiez tout à l'heure, il se passe pas grand-chose, pour pas dire à peu près rien, et on ressort des 8 épisodes en se demandant un peu quel était le but du truc. Donc bon, voilà, je pense que c'est une série qui mérite peut-être de se développer différemment s'il y a une saison 2.
La sortie de Moonbase 8 nous a évidemment donné envie de nous plonger dans ces séries qui évoquent l'espace. La comédie est souvent de mise hein, quand on parle d'espace et de science dans les séries. Je pense notamment à Big Bang Theory, s'il fallait en citer qu'une. Et récemment sur Netflix, j'ai hurlé de rire avec Space Force. C'est une série de Greg Daniels et Steve Carell qui endosse le costume du général Mark Nerd qui est promu à la tête des forces spatiales américaines. Alors un militaire pas franchement fut-fut, hein, pourrait rester poli, et qui est encadré par le professeur Mallory, interprété par John Malkovich. Extrait d'un épisode au cours duquel les scientifiques sur Terre tentent de faire réparer un vaisseau par un singe envoyé dans l'espace quelque temps auparavant.
Général, je dois vous avertir, nous avons rompu le contact avec ces animaux il y a environ 2 semaines, et aucune provision n'a été prévue pour leur retour, ce qui veut dire qu'on allait les laisser dans l'espace.
Quoi ? C'est la procédure. Les rapatriements de capsules sont trop onéreux pour les missions comportant des animaux. Donc, Laika, Gordy, Desik, Lisa, Albert 2, Albert 4 ont été abandonnés sur place après avoir accompli leur mission. Mission qui, dans le cas présent, consistait apparemment à fournir des images mignonnes.
C'est horrible.
C'est pas gentil, ça.
C'est une honte pour l'Amérique!
Série irrévérencieuse, anti-Trump, avec deux acteurs de génie, donc Steve Carell et John Malkovich. Charles, est-ce que vous avez aimé cette série Netflix ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé Space Force. Alors bon, la série n'était pas très bien reçue à sa sortie, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la team de The Office, donc notamment le créateur Greg Daniels qui est derrière. Et donc c'était très attendu et pas mal de gens qui ont été un peu déçus sur l'humour, sur le fond du truc. Moi je trouvais ça drôle, je trouvais ça comme vous dites un peu barré, gentiment barré. Et puis surtout c'est une satire qui est plus ambitieuse qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'elle dit beaucoup de choses contre Trump et puis sur la façon dont l'Amérique aborde la conquête de l'espace.
Julien, est-ce que vous l'avez vu Space Force?
Je vais être honnête, au début, j'avais abandonné, j'ai pas trop rentré dedans. Je me suis dit, bon, allez, pour Série Land, je vais me faire violence. Et je trouve qu'autant j'ai eu du mal avec les premiers épisodes, tant ça s'améliore sur la suite. Et puis, franchement, je trouve que la série tient quand même beaucoup, beaucoup à John Malkovich.
Oui, on est d'accord.
Et j'ai aussi un coup de cœur pour Lisa Kudrow, même si elle a un rôle très petit dedans, qui est vraiment, vraiment drôle. Après, Steve Carell fait quand même du Steve Carell, on va dire.
Il faut aimer ce genre d'humour totalement absurde, hein, il faut le dire, un peu comme Moonbase aussi. Mais Julien, plus sérieusement, j'ai choisi cet extrait un peu exprès aussi, pour que vous nous éclairiez aussi sur ce point-là. Cet envoi d'animaux dans l'espace, ça a été une étape cruciale dans la conquête de l'espace. C'est comme ça que tout a commencé, ce sont des animaux sacrifiés.
C'est vrai pour certains et pas pour d'autres. Mais en effet, typiquement Laika, ils ne l'ont pas ramené. Il y a eu beaucoup d'animaux qui n'ont pas été ramenés. Il y a des animaux qui ont été ramenés notamment par les soviets parce que ça faisait partie de la checklist. Il fallait aussi voir est-ce qu'on pouvait les ramener. Il y a notamment une mission où c'était une vraie ménagerie. Il y avait un nombre de... Enfin, je sais pas, il y avait 15...
L'âge de Noé dans l'espace.
Ah non, c'était incroyable. Il y avait une quinzaine d'animaux différents et tout ça. Dont une chienne qui était enceinte parce qu'ils voulaient voir comment ça se passerait. Et elle a mis à bas des petits en revenant sur Terre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que derrière, un des petits chiots a été offert à la fille de Kennedy lors d'échanges diplomatiques avec les USA. Il y a eu énormément, en fait, hein, de rapprochements USA-URSS aussi autour du spatial, et pas que du conflit. Mais donc voilà, les animaux dans l'espace, ça s'est fait beaucoup. De nos jours, s'il y a un animal dans l'espace, on le ramène, mais a priori, je ne crois pas qu'il y ait d'animaux actuellement. Peut-être des souris de laboratoire, on va dire. Oui. Donc, dans ce cas, c'est un peu comme sur Terre, quoi. On va pas les, on les traite pas très très bien.
Mais c'est vrai que quand vous étudiez cette histoire de l'aérospatiale, de l'aéronautique, envoyer Leica dans l'espace, bon, quand vous la prenez, moi, je me souviens ça quand j'étais adolescente, ça ne me choquait pas. Et d'entendre cet extrait et d'imaginer ces animaux totalement abandonnés au fin fond de l'espace, il y a un truc très violent, je trouve, comme si notre société aujourd'hui ne pouvait plus accepter ce genre de fait.
Oui, ce genre de sacrifice, c'est plus quelque chose de normal dans notre vision actuelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est mieux. Hein. Bah, disons qu'ils voulaient d'abord tester avec des êtres vivants, donc ils ont commencé avec des animaux, quoi.
Ouais.
Parce que c'était difficile, plus facile de justifier qu'un animal, un chien, mourait sur un pas de tir que de justifier qu'un astronaute ou un cosmonaute explosait dans une fusée.
Est-ce qu'on sait le nombre d'hommes qui ont été sacrifiés aussi, notamment, je pense, dans les années 50 et 60, quand il y a eu les premiers lancements de fusées? On le comprend dans l'étoffe des héros, notamment, dans la série L'étoffe des héros, où on est abordé cette thématique-là, où on a l'impression que, notamment en URSS, il y a eu beaucoup d'essais et beaucoup d'hommes sacrifiés, sans qu'on sache exactement combien. Est-ce que vous savez ça?
Bah, l'URSS, forcément, a couvert un certain nombre de choses, mais a priori, maintenant, les archives sont plus ou moins ouvertes. On a une vague idée de qui est mort ou pas. Mais j'ai plus le chiffre en tête, par contre. Il n'y a pas eu tant que ça de morts dans l'espace en soi, mais après tout autour, enfin typiquement,
oui, bien sûr.
La plupart des astronautes américains morts sont morts soit dans leurs activités de pilote d'essai, soit même en entraînement. Ça, c'est pas dans l'étoffe des héros, mais Apollo 1, par exemple, tout l'équipage est mort sur Terre lors d'un entraînement parce qu'il y a eu le feu dans le module sur Terre et qu'il y a eu un problème sur comment étaient verrouillées les portes et en fait, ils pouvaient pas sortir. Enfin, c'est un accident complètement grotesque, mais qui a lancé toute une nouvelle politique de la NASA sur comment gérer la sécurité en interne, du coup.
Charles Martin, vous voulez toujours partir sur la Lune?
On
est
d'accord,
hein. Voilà.
Je suis un risque tout, il n'y a aucun problème.
D'accord. Julien et Charles, est-ce que vous connaissez la plus vieille série de science-fiction qui est toujours en cours de production? Non?
Alors, moi j'aurais dit Doctor Who.
Exactement.
Mais, Doctor Who, ouais.
Mais oui, et oui, Julien. Doctor Who, créé en 1963 pour la BBC, la série traverse l'espace-temps et notre sérivore Clémence Olivier a déniché une histoire croustillante.
Clémence Olivier, agent coulisse de Cyriland.
Dans le genre série culte qui parle d'espace, il y a aussi Doctor Who, une série britannique de science-fiction lancée en 1963 sur la BBC et encore diffusée aujourd'hui. La prochaine saison est d'ailleurs en tournage. L'histoire est celle d'un extraterrestre de 900 ans, le Doctor Who donc, un docteur qui voyage à travers le temps et l'espace et qui a la particularité de changer d'apparence à chaque fois qu'il meurt et se régénère. Au total, il y a donc eu 13 acteurs différents pour incarner le Docteur durant 38 saisons et 861 épisodes. Mais si comme moi vous comptiez tous les voir, vous serez déçus. C'est malheureusement impossible. Certains sont introuvables aujourd'hui. Et pour cause, ils ont été effacés, rayés de la carte ou des bobines. Bref, je vais tout vous expliquer. Dans les années 60 et 70, pas de disque dur ou de cloud à la BBC pour archiver les séries, mais des bandes magnétiques. Sauf que ces bandes coûtent cher. Du coup, la chaîne de télévision britannique a pris l'habitude de les recycler pour y enregistrer du contenu frais, un peu comme on le faisait avec les cassettes vidéo dans les années 90, mais à l'échelle d'une chaîne de télé. Et vous me voyez venir, c'est ce qui est arrivé à Doctor Who. Une grande partie des 253 épisodes de la série, produits entre 67 et 78, ont tout simplement été effacés. Beaucoup d'entre eux sont ceux dans lesquels apparaissent les 2e et 3e docteurs, mais certains mettant en scène le premier interprète de Who, William Hartnell, sont aussi concernés. De véritables reliques.
You can't rewrite history, not one line.
Barbara, the high priest is coming.
Barbara, one last appeal. What you are trying to do is utterly impossible. I know. Believe me, I know.
Pour les fans, la disparition de ces épisodes est évidemment un scandale. Alors dans les années 80, la BBC et les amoureux de Doctor Who se démènent pour les retrouver. Comment? En allant toquer du côté des chaînes de télé étrangères. Car je ne vous l'ai pas dit, mais dès le départ, la série a voyagé dans le monde entier. Et contrairement à la BBC, quelques diffuseurs ont conservé les épisodes qu'ils ont programmés. C'est comme ça que certains ont été retrouvés dans les locaux de la télévision nigériane, 45 ans après leur diffusion.
What do you want? You...
Ça, c'était un morceau du trailer de The Web of Fear, cet épisode retrouvé de la saison 5. Malheureusement, cette régénération ne s'est pas produite à chaque fois. 97 épisodes manquent toujours à l'appel, et impossible de voyager dans le temps pour les récupérer. Les fans ont quand même de quoi se consoler. D'abord parce que la série a repris en 2005 avec de nouveaux docteurs, David Tennant, puis Matt Smith, vu dans The Crown, et la première femme, Jodie Whittaker. Mais surtout parce qu'en 2016, la BBC leur a fait un beau cadeau. Elle a reconstitué, en version animée, l'un des épisodes disparus les plus mythiques, celui dans lequel le premier docteur change d'apparence, The Power of the Daleks. Un petit morceau de l'histoire audiovisuelle du pays de Sa Majesté. Plusieurs saisons de Doctor Who sont à découvrir sur Amazon Prime Video et les dernières saisons sont, elles, sur France.tv. En matière de science-fiction, autre série Netflix qui mérite le détour, Away, 10 épisodes sortis en septembre dernier, portés par l'excellente Hilary Swank, dans la peau d'Emma Green, astronaute à la tête de la première expédition sur Mars, un voyage d'une durée de 3 ans. Et avant d'atteindre la planète rouge, on en parlait tout à l'heure, Julien, escale sur la Lune et petit message aux terriens.
Ici le commandant Emma Green, depuis la Lune. Ça paraît évident. Mais il y a énormément de gens qui ne peuvent pas être là. Sur Terre, à travers le monde. C'est grâce à leur travail et à leur sacrifice que nous, nous pouvons être ici aujourd'hui. Aller sur Mars est sans doute la chose la plus difficile que l'humanité ait jamais entreprise. Cela nécessite le meilleur de nous. De chacun de nous. Ce n'est peut-être pas dans notre nature de travailler ensemble. Mais notre avenir nous impose qu'il en soit autrement. Alors maintenant, nous devons nous unir et nous réaliserons ce rêve ensemble. Ce rêve qui autrefois nous semblait impossible.
Julien Dassaterrier, vous l'avez vu cette série, Away ?
Je ne l'ai pas vue.
Ouais.
J'en ai entendu beaucoup de choses, du bon et du mauvais, enfin ouais. À dire. J'ai entendu du bon sur le fait que ça abordait le voyage différemment et j'ai entendu du mauvais sur le sens où il y a des personnages où en gros on... qui, en fait, pour créer du drama, souvent les personnages dans les séries du spatial sont beaucoup plus faillibles que ce qu'on autorise réellement aux astronautes de notre temps, on va dire.
Ah oui, alors, et d'ailleurs, Emma Green, donc, qui est l'héroïne principale, vous dites qu'elle est faillible, enfin, que les personnages sont faillibles, c'est son cas, en l'occurrence. Et elle est sur la Lune, je spoil rien, puisque c'est les premières minutes, en fait, du premier épisode. Elle est sur la Lune et son mari a fait un accident cardiovasculaire et elle décide d'arrêter sa mission pour revenir sur Terre. En revanche, je ne vous dis pas la suite, mais effectivement, on sent que c'est un élément qui n'existerait pas en vrai, parce que quand vous êtes préparé à partir pour Mars, et vous savez en plus que ça va durer 3 ans, vous ne commencez pas à prendre en compte ce qui se passe sur la Terre, parce que sinon, vous ne repartez jamais, quoi. Charles Martin, vous l'avez vu,
oui ? Oui, bien sûr. Oui. Comme disait Julien, c'est vrai que c'est une série qui aborde la conquête spatiale sous un autre angle. Hein. C'est pas spécialement spectaculaire. C'est vrai que parfois, c'est même un peu lent. Ça joue beaucoup sur les relations humaines et c'est plutôt mélo d'ailleurs dans son approche des relations humaines. C'est vrai que Emma Green, l'astronaute jouée par Hilary Swank, elle laisse sa famille derrière, elle pleure beaucoup, elle regarde beaucoup la Terre, etc. depuis son hublot en se disant qu'elle a laissé ses enfants derrière. Et voilà, il y a ce côté très très émouvant en permanence sur lequel joue la série, beaucoup plus que sur l'aventure spatiale en elle-même.
Oui, alors avec quand même un point intéressant, à mon sens, c'est que ça évoque aussi la place des femmes dans cette conquête spatiale, et c'est très peu abordé dans toutes les autres séries qui sont très masculines, pour le dire vite. La place des femmes dans cet univers-là, elle a beaucoup changé, Julien Dassaterrier ?
Alors, beaucoup changé clairement, parce qu'à la base, il n'y en avait pas. Encore une fois, on reviendra sur ça dans l'étoffe des héros, parce qu'il parle un peu des Mercury 13, qui en fait est un petit peu la chose qui a entériné que les femmes n'auraient pas de place dans le spatial, en tout cas américain, avant un bout de temps. Les soviets ont quand même très vite mis une femme en orbite, mais en fait, ils n'ont pas continué derrière. C'était juste pour avoir le titre, et ils n'ont pas vraiment intégré les femmes, spécialement dans leur programme spatial. Et en fait, il faut attendre vraiment les années 80 pour qu'on commence à avoir des femmes astronautes. En Europe, il y a eu Claudine Henioret dans les années 90, il me semble. Et maintenant, notamment les missions américaines, c'est de plus en plus mixte quand même. C'est rare qu'il n'y ait pas au moins une femme, voire un équilibre autant d'astronautes hommes que femmes dans les missions. En Europe, on n'y est pas encore. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'astronautes. Et donc, du coup, ça joue. Et puis, ça joue parce qu'aussi, malheureusement, là, on a le même problème que tous les domaines scientifiques de sciences dites dures. On a un problème de société sur ça, hein, d'éducation et de des jeunes femmes qui sont détournées de ces études et du coup, bah, des chemins vers ce genre de métier très tôt.
Oui, il faut répéter à l'infini qu'elles peuvent devenir spationautes en France, qu'elles ont le droit d'être scientifiques et qu'elles, il faut qu'il y ait des femmes aussi dans cet univers-là. Alors, on l'a vu, les séries s'emparent du sujet en faisant appel à la comédie, à la science-fiction, parfois au drame, hein, notamment au cinéma, beaucoup au drame. Et puis, il y a le volet historique. On en a parlé depuis le début de cet épisode de Sériland. Julien, j'ai adoré la série L'étoffe des héros sur Disney+, inspirée du livre de Tom Wolfe, qui avait déjà donné lieu à un long métrage. En fait, la série retrace l'épopée des premiers Américains envoyés dans l'espace à partir de 1958. Hein. Vous allez découvrir l'histoire de la mission Mercury, composée de 7 astronautes dont Alan Shepard et John Glenn. Ce dernier avait compris l'importance du poids des médias en fait, dans toute cette histoire et il parvient à convaincre le magazine Life de suivre le quotidien des 7 hommes.
Les gens ont envie de tout connaître sur vous, messieurs, et sur vos vies. Vous en avez été témoins. Les chaussures que votre épouse porte ou les céréales que votre enfant mange.
Life Magazine racontera vos histoires, messieurs. Nous embarquerons le public dans un voyage depuis leur cuisine jusqu'à Pluton. Et le public pensera connaître vos familles et vous connaître vous. Il voudra être comme vous.
Et vous savez quoi? Le magazine est prêt à vous offrir un contrat d'exclusivité. Ils s'occuperont de tout. Aucun journaleux venant d'un trou paumé ne viendra frapper à votre porte. Laissez entrer Life Magazine et nous nous occupons de laisser les autres dehors.
C'est quoi l'intérêt pour nous?
L'argent, pour commencer. La gloire. L'immortalité.
Série académique sur la forme, mais que j'ai trouvée passionnante, une saison 2 est déjà signée. Julien, vous avez choisi la pédagogie, la vulgarisation, notamment sur les réseaux sociaux, quand vous parlez d'astronomie et d'astrophysique, et je me suis dit, mais au fond, les séries, elles ont tout d'un coup, notamment avec l'étoffe des héros, elles ont ce rôle-là aussi de nous apprendre l'histoire de l'aéronautique, de l'aérospatiale, et de nous permettre aussi de comprendre tous les enjeux, à la fois historiques et scientifiques.
Moi, en fait, l'étoffe des héros m'a beaucoup évoqué la série de la Terre à la Lune des années 90 sur HBO, qui était un vrai petit bijou que moi je recommande. Enfin, je crois qu'il est sur Amazon Prime. Moi, je la recommande toujours. Je trouve que c'est un vrai bijou et ça avait été produit par Tom Hanks peu de temps après qu'il ait fait Apollo 13. En fait, ce qui est génial avec la conquête spatiale, c'est que c'est tellement cinématographique de base qu'on n'a pas vraiment besoin d'en rajouter. Alors, on en rajoute sur la mise en scène, sur les scènes en elles-mêmes, on va dire. Parce qu'encore une fois, même s'ils étaient, les astronautes étaient quand même très très formés. Enfin, on voit ça dans par exemple Apollo 13 où le film est très très les moments où il y a des accidents, tout va très vite. Ils sont très bon, ils sont compétents, mais ils sont à fond, ils parlent très fort et très rapidement et tu sais comme dans les films. Alors qu'on voit que les images de la vraie mission Apollo 13 sont plutôt ennuyeuses. Où le Houston Web Problem est vraiment dit avec une voix hyper monocorde, hyper claire pour qu'on entende bien dans le micro et les mecs sont très calmes et tout. Et c'est pas du tout.
La représentation voilà. Cinématographique, ouais.
Par contre, c'est les dialogues. Ouais. C'est à peu près les mêmes dialogues, juste ils ont été revus. Et d'étoffe des héros, j'ai un peu regardé, parce qu'encore une fois, moi je suis pas. Je suis plus astrophysique que conquête spatiale, c'est deux domaines différents. Mais j'ai regardé un petit peu et a priori, l'étoffe des héros est quand même cale très bien avec le programme Mercury, donc qui visait à mettre le premier homme en orbite de la Terre côté USA.
Charles Martin, qu'est-ce que vous en pensez de l'étoffe des héros?
C'est une très belle série, c'est une des premières grosses séries Disney+, après la Star Wars, la Mandalorian. Il y a une vraie, vraie grosse production value dans la mise en scène, dans les décors, dans les costumes. C'est très efficace. Après, comme vous l'avez dit, c'est assez classique. Hein. On n'est pas dans un truc subversif. C'est vraiment une peinture presque documentaire de la conquête. Mais c'est assez excitant et assez haletant à suivre quand même, de bout en bout.
Alors, moi, je pense que le terme que vous venez d'utiliser, documentaire, est tout à fait révélateur de cette série. On y apprend énormément de choses. Moi, je la trouve vraiment très bien réalisée. Pour le coup, on est embarqué. Parfois, j'ai l'impression d'être dans Mad Men, tellement ça fume et ça boit aussi. Et c'est assez incroyable parce qu'on n'a pas du tout cette image-là, en tout cas des astronautes de l'époque. Mais c'était la réalité, c'était comme ça. Et ce qui me semble assez intéressant, c'est que ça raconte aussi l'histoire des médias. L'histoire politique, l'histoire géopolitique évidemment, une histoire scientifique et puis une histoire humaine. Parce qu'au fond, c'est tout ça quand on parle d'astronomie, d'astrophysique, on a l'impression que c'est un truc une chapelle pour scientifiques, mais ça raconte aussi notre société quelque part.
Totalement. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la série notamment, c'est qu'on voit qu'il... l'image des astronautes est un peu moins pure que dans beaucoup d'autres adaptations, on les montre beaucoup plus humains. Et là, pour le coup,
c'est la concurrence, hein, vraiment. Entre
ouais.
Eux.
Ouais. Et ça, pour le coup, a priori, c'est vrai. Hein, la concurrence entre certains astronautes, les vies un peu plus folles de certains, le fait qu'on prenait les pilotes d'essai qui sont quand même typiquement des gens qui sont prêts juste à faire un métier où ils peuvent exploser d'une minute à l'autre dans leur métier. C'est pour ça que je parlais du fait qu'on n'a pas du tout les mêmes astronautes maintenant. Hein, Thomas Pesquet n'aurait jamais été sélectionné à cette époque. Et inversement, on n'aurait jamais pris un Alan Shepard de nos jours pour partir dans l'espace. C'est pas du tout le même type d'attente qu'on a.
Petite précision, je vous recommande également sur Disney+, le documentaire qui vient en prolongement de la série. Et donc vous verrez qu'il y a vraiment des corrélations très fortes entre la fiction et la réalité. Dernière partie de cet épisode de Série Londres avec nos recommandations de la semaine, les séries incontournables, alors celles qui font l'actualité, que nous avons regardées pour vous. Et Charles Martin, vous avez craqué pour une série HBO. On va écouter en VO la BA. Alors Charles Martin, est-ce que je tente de le dire en anglais avec mon anglais qui est pas génial? Le titre de cette série, c'est The Flight Attendant. Est-ce que je prononce bien Attendant?
Ouais, je prononcerai pas beaucoup mieux que vous. Ouais, The Flight Attendant, c'est pas une série HBO, c'est une série HBO Max, la plateforme américaine qui est pas encore disponible en Europe. Et donc la série sera diffusée en France sur Warner TV. Il y a pas de date, mais prochainement, dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui est prise dans une descente aux enfers terrible. Elle se réveille à Bangkok un matin à côté d'un cadavre. Voilà, un passager de l'avion qu'elle a servi la veille et qui est mort. Et voilà, elle va enquêter pour savoir ce qui s'est passé. C'est un thriller sexy et millimétré, vraiment, qui déborde d'énergie. Et surtout, dedans, il y a Kaley Cuoco, qui est l'ancienne star de Big Bang Theory, dont on se souvient évidemment, qui est là dans un rôle à contre-emploi complètement. Elle abandonne complètement la sitcom. Et elle réussit surtout à un petit exploit, c'est qu'elle arrive à faire oublier Penny, la fameuse girl next door qu'on avait adorée pendant 12 ans. Et donc là, elle livre une performance assez bluffante.
Et c'est une des séries qui vous a marqué là ces derniers temps?
Ouais, la série est sortie à la fin de l'année aux États-Unis et vraiment il y a 8 épisodes et elle est vraiment vraiment excitante. C'est une espèce de course folle électrique qui s'arrête jamais, très divertissant. Côté jeu de piste, Alice qui tombe dans l'abîme du lapin blanc. Et puis en plus c'est jamais prise de tête, c'est assez loufoque comme ambiance. On s'amuse beaucoup et on se passionne pour l'histoire.
Eh ben, j'ai l'impression que vous parlez aussi de la série pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur ces derniers jours, la nouvelle série événement de Netflix qui s'appelle Lupin. Alors Lupin qui, comme son nom ne l'indique pas, ne parle pas d'Arsène Lupin, enfin en tout cas presque. C'est une série de Georges Kay avec Omar Sy et Ludivine Sagnier dans les rôles principaux. Alors Omar Sy est bien un gentleman cambrioleur, un as de l'illusion nommé Hassan Diop et sa mission c'est de venger son père victime d'une injustice 25 ans auparavant. Et pour ça, il est prêt à tout, à commencer par commettre le casse du siècle.
Les œuvres d'art que je nettoie valent des millions. Je les ai à portée de main. Tous les soirs.
Hey, mais moi, je vois toujours pas arriver mon pognon.
Ben, il arrive. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, elle va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler.
Alors Lupin, c'est l'art du divertissement. Je parle de la série bien évidemment, de l'action, de l'humour, de l'inattendu, une esthétique dans la réalisation. C'est la série à regarder en famille. Chaque épisode est une sorte de mini-histoire qui est concentrée autour du personnage incarné par Omar Sy, avec des références permanentes à Arsène Lupin. Et la série a une vertu que je n'imaginais absolument pas en débutant le visionnage, c'est que Lupin provoque une féroce envie de plonger dans l'univers de Maurice Leblanc, donc le créateur d'Arsène Lupin, du gentleman cambrioleur. Et ça pourrait même inciter les plus jeunes à lire. Je sais, on peut rêver, mais enfin, écoutez, les séries aussi, ça sert à ça. Pourquoi pas, au fond ? Et je vous propose de terminer cet épisode avec votre coup de cœur, Julien Dassaterrier. On repart un peu dans l'espace avec une série que j'ai beaucoup aimée aussi, Avenue 5. Avenue 5 ou Avenue 5, qui est à voir sur OCS. Série avec un héros incarné par Hugh Laurie, notre Dr House préféré. Il est le capitaine Clark à bord d'un vaisseau de croisière, alors croisière de luxe. Départ pour Saturne, un voyage qui doit durer 8 semaines, mais sauf qu'il va y avoir un incident et que le voyage va durer 3 ans. Rapidement, l'équipage comprend que Clark a bien une casquette de capitaine, mais aucune compétence en la matière.
Êtes-vous canadien ? Si moi je suis canadien ?
Oui.
Non, je suis pas canadien. D'accord. Je vais vous le dire, je suis genevois.
Oh, putain, merde. Oh, mon Dieu. C'est encore pire.
Ah, c'est vrai ? Vous trouvez ça pire ? Bon. Eh ben, il y a encore pire que ça. Je suis pas capitaine non plus.
Ah, je comprends mieux. Oh, ça m'éclaire.
Dieu, vous êtes amiral ?
Non, quoi ?
Vice-amiral ?
Non, ce vaisseau n'a pas de pilote. C'est clair ? On m'a engagé pour rassurer les passagers. Je trouve ça aussi hallucinant que vous.
Julien, pourquoi ce coup de cœur pour Avenue 5?
Alors, j'ai trouvé ça très très drôle. Enfin là, on est dans vraiment un humour que j'aime beaucoup. C'est fait par les mêmes personnes qui ont fait VIP, qui m'avaient déjà beaucoup fait rire, même si c'est un peu passé inaperçu en France, je crois.
On en a beaucoup parlé pendant les élections américaines. On avait consacré un épisode là-dessus. VIP qui raconte la Maison Blanche de façon très humoristique avec sa vice-présidente.
Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment cet humour qui est très rapide, avec beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça fuse tout le temps. Et j'ai trouvé qu'il y avait, au-delà de ça, il y avait quelque chose que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour une série de science-fiction spatiale comédie, en fait, il y a beaucoup de ressorts comiques qui reposent sur des vrais phénomènes, soit spatiaux, des vrais concepts qui sont là. Genre typiquement, le chef de la compagnie qui est un riche, capricieux, qui comprend rien, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a un temps de décalage dans les communications avec la Terre. Et on a ces scènes relativement drôles où un message est envoyé, puis tout le monde reste immobile avec un air un peu ennuyé en attendant plusieurs minutes que le message arrive. Et lui n'arrive pas à comprendre, il pense que c'est un bug, et du coup il engueule tout le monde en disant « Pourquoi on n'a pas corrigé ça ?» Et ce genre de choses me font beaucoup rire parce que c'est vraiment de l'humour, mais là où Space Force avait vraiment tendance à créer des blagues complètement sorties de tout contexte scientifique, Avenue 5, très souvent, va prendre une blague qui sort vraiment de quelque chose d'assez réaliste. Alors je vais pas dire que c'est Art Science, faut pas charrier, il y a quand même quelques petites choses vraiment tirées par les cheveux dedans, mais il y a beaucoup d'idées qui sont compatibles en fait avec des vraies idées où ils se disent tiens, on a cette idée là et tout, si on y a ça, il y a cette histoire un peu étonnante du monde de la conquête spatiale, si on détournait ça en une blague pour l'émission quoi. Enfin, il y a vraiment ça.
Ah, mais alors je m'adresse aux scientifiques que vous êtes, puisque cette histoire de voyage qui va pas durer 8 semaines mais 3 ans, elle est issue d'un incident qui fait que le vaisseau est détourné de son orbite. Est-ce que c'est possible ça ou pas du tout, ou ils l'ont complètement inventé?
Alors, c'est un peu des deux. Alors, on va dire que le plus délirant, c'est que c'est un vaisseau qui a une gravité artificielle, ce qui est quelque chose qui n'existe a priori pas. Alors, peut-être dans... Je sais pas quand va se passer la série, c'est dans le futur, hein, très clairement. Donc, je ne sais pas exactement si ce sera un jour possible d'en créer une sans avoir un système un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on voit cette grande roue qui tourne pour créer une fausse gravité. Il y a les lois de la physique de Newton, c'est-à-dire que si on va éjecter... du gaz d'un côté du vaisseau, le vaisseau va être détourné. Que l'incident gravitationnel à bord qui arrive au début détourne le vaisseau et fasse que sa boucle pour revenir vers la Terre soit beaucoup plus longue,
Pourquoi pas,
ça se tient. Ça se tient complètement. Le problème, c'est juste de dire d'où vient cette gravité. Mais ça, c'est la prémisse de la série, donc je l'accepte, on va dire.
Ça s'appelle Avenue 5 avec Hugh Laurie, donc dans le rôle principal, et c'est à voir sur OCS. On vous la conseille, évidemment. Charles Martin, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sériland.
Merci à vous, avec plaisir.
Vos chroniques séries sont à découvrir sur le site première.fr.
Et dans le magazine Première aussi.
Et dans le magazine Première, bien sûr. Je parlais du site, mais c'est vrai, le magazine Première, ça existe. Et il faut aller en kiosque, acheter la presse, évidemment. Merci beaucoup Charles Martin, et puis merci Julien Dassaterrier d'être venu nous éclairer. Je recommande notamment votre conférence TEDx qui est à retrouver sur les réseaux sociaux où vous êtes très présent. C'est merci. Absolument passionnant. Et puis les fidèles de la plateforme Twitch peuvent vous y retrouver aussi, si je ne me trompe pas, votre pseudo Dassaju.
Dassaju, parce que sinon les gens vont croire qu'il y a un
pardon,
OU,
mais
peut-être.
Oui, Dassaju.
Voilà, Je fais je fais un peu de tout. Alors après, sur Twitch, je ne suis pas que vulgarisation, mais j'essaie de faire un peu de vulga avec divers supports. Je sais pas, en ce moment, je suis en train de faire la Saturne 5 en Lego, en parlant d'espace et de plein de trucs. On s'amuse. Quoi.
Vous amusez avec Julien Dassaterrier, c'est sur Twitch. Et puis, comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série, et je ne pouvais pas ne pas finir avec une autre série qui se déroule dans l'espace. La parole est à Monsieur Spock dans Star Trek. Longue vie et prospérité.
Live long and prosper.
Dans Dans le prochain épisode de Série Londe, je vous propose de changer d'univers grâce à un grand entretien avec une créatrice et scénariste française. À son actif, plusieurs saisons d'Engrenage et une nouvelle série policière à voir sur TF1 et Salto, La Promesse. Anne Landois sera notre invitée de la semaine. Série Londe est un podcast Europe 1 Studio, produit par la lumineuse Adèle Ponticelli et Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores Clémence Olivier, Charles Martin, Magali Buteau et Salomé Journoux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast et vous n'imaginez pas à quel point être étoilé nous rend heureux. Le groupe Facebook de Série Londe est là pour vous aussi, puis nous sommes désormais disponibles sur Deezer. Mais attention, dans Série Londe, la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous. Comme ça, on ne se quittera plus.